Silence dans la salle. Vous pouvez vous asseoir. Je suis le juge James Whale Smith. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'affaire 2525 qui permettra de décider si Monsieur Victor Frankenstein sera condamné à la prison à vie ou sera libéré. Dans cette affaire, nous aurons 12 témoignages qui seront proposés par des hommes et des femmes en lien avec notre affaire. Le capitaine Walton, le professeur Crump, Justine, ou plutôt son journal intime, Monsieur Delassay, son fils, Félix Delassay, le gardien du cimetière, l'avocat d'Elisabeth, la dame qui a hébergé Victor, les villageois, l'avocat d'Henri Clerval, la créature, et enfin Victor Frankenstein, l'accusé. J'appelle dès à présent le capitaine Walton, qui sera notre premier témoin. Bonjour, monsieur Walton. Vous êtes le premier à la barre dans cette affaire. Nous vous prierons d'être explicite dans votre témoignage.
Bonjour, monsieur le juge. Je me présente aujourd'hui à ce tribunal pour livrer mon témoignage. Je suis Robert Walton, le capitaine d'une baleinière. Alors que j'entreprenais une expédition dans les pôles de notre terre, mes hommes et moi-même aperçûmes une étrange silhouette anormalement grande qui se découpait dans le brouillard. Le lendemain matin, notre bateau se retrouva bloqué dans les glaces et dans les minutes qui suivirent, un homme vint à notre rencontre et nous demanda de le laisser grimper à bord. Comment aurais-je pu refuser cela à un homme si désespéré ? Je n'allais tout de même pas le laisser mourir.
Un peu de tenue, je vous prie.
Oh oui, excusez-moi, je reprends. Il monta et nous pûmes le distinguer plus profondément. Il était maigre, blême, les traits usés par la fatigue. Il me sembla évident que cet homme avait besoin d'une précieuse aise. Je l'accompagnai dans mes quartiers et l'installai dans un lit. Après l'avoir soigné et nourri, une certaine forme de confiance s'installa entre nous. Il commença à me livrer son macabre récit. J'appris les raisons et les causes qu'il avait amenées sur mon navire. C'était un grand scientifique qui avait décidé de révolutionner la médecine en créant ni plus ni moins que la vie. Après de durs mois de travail, il atteint son objectif. Son œuvre, si c'est ainsi qu'on le peut la qualifier, prit peur et s'enfuit. Le monstre laissa Frankenstein seul face à cette erreur. Suite à cela, Victor tomba dans de longs mois de maladie et de fatigue.
Victor est là aujourd'hui. Il sera tout à fait en mesure de nous raconter son histoire. Alors faites vite, je vous prie.
Très bien. Laissez-moi encore quelques minutes. Je tiens vraiment à porter tout mon soutien à Victor Frankenstein dans ce procès. Il rêvait de changer ce monde et de faire avancer de façon significative la science, mais cette utopie s'est lentement transformée en un horrible cauchemar parsemé de morts. Je vous prierai de considérer cela dans votre jugement. Je vous remercie d'avoir prêté attention à mon témoignage.
Merci Walton pour votre précieux témoignage. Vous êtes le seul à avoir parlé avec Victor Frankenstein. Vous êtes donc un pilier de ce procès. J'appelle maintenant à la barre l'ancien professeur, Monsieur Crump. Présentez-vous, excusez-moi, et dites-nous ce que vous savez de cette affaire.
Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Oscar Crump et j'étais le professeur de biologie de Victor. Enfin, jusqu'à ce que je lui interdise le laboratoire en dehors des cours.
Pourquoi lui avez-vous interdit le laboratoire ?
Je lui interdis le laboratoire car il s'aventurait dans une médecine occulte que je n'appréciais guère.
Mmh. Et en quoi consistait-elle ?
Par une médecine occulte, il essayait de recréer la vie après la mort. Ses matériaux, si je puis dire ainsi, étaient plusieurs parties de corps qu'il découpait et recousait lui-même pour créer, comme l'appelait-il, sa créature.
Avez-vous d'autres choses à nous livrer ?
Oui. Après lui avoir interdit le laboratoire, je ne l'ai plus jamais revu.
Merci, professeur Crump. Je vous remercie d'être venu témoigner. Votre témoignage nous a beaucoup aidé dans l'enquête. Vous pouvez regagner votre place. Et maintenant, nous allons laisser la parole à l'avocate de Justine, cette jeune femme condamnée il y a quelque temps pour meurtre.
Bonjour, messieurs, dames. Je suis l'avocate qui représente Justine.
Présentez votre cliente, je vous prie.
Justine était de la famille Frankenstein. Elle a été accusée du meurtre du jeune William Frankenstein. Pendant ses derniers jours en prison, elle a écrit une lettre où elle révèle qu'elle a été accusée à tort. Je vous lis maintenant ses derniers mots.
Nous vous écoutons.
Je n'ai pas dit la vérité lors de mon procès. Je n'ai pas tué William, ce pauvre petit. Je n'aurais jamais pu lui faire de mal. J'étais chez ma tante le soir de la disparition de William. Je somnolais dans la grange. Mais sous la torture, je n'ai pas pu résister à la tentation d'avouer même ce que je n'avais pas fait. Le soir où William a été assassiné, j'ai cru voir une masse gigantesque dans l'embrasure de la porte de la grange où je me reposais. Il me semble qu'elle a déposé quelque chose dans ma poche. Je me souviens que la créature s'est enfuie et j'ai compris par la suite la raison de sa présence. Le lendemain, lorsque j'ai découvert le portrait de la mère des enfants Frankenstein, j'ai compris que le soir d'avant, je n'avais pas rêvé. À l'instant où l'on m'a annoncé la mort de William, j'ai tout de suite relié la créature qui m'avait remis le portrait au meurtre de William. Je ne pouvais pas expliquer cela au juge. Personne ne m'aurait cru. On m'aurait traité de folle ou les gens auraient dit que j'avais rêvé la créature. J'écris ces mots en dépit de ma sentence.
Oserez-vous contredire les dernières paroles d'une femme résignée à la mort ?
Non, bien sûr que non. Bien, nous remercions la gentille jeune femme de son témoignage. Elle nous aidera à avoir une sentence convenable au crime de M. Frankenstein. Elle nous a apporté beaucoup de renseignements sur ses horribles actes. Et nous remercions son avocat, Mme Nael, d'avoir lu la lettre de cette femme. Témoin suivant, M. Delassier. Que quelqu'un accompagne M. Delassier à la barre, je vous prie.
Bonjour, je suis M. Delassier. J'ai deux enfants qui se nomment Félix et Agathe. Je tiens à préciser que je suis aveugle.
Très bien, M. Delassier. Vous pouvez maintenant nous livrer votre témoignage.
La créature est rentrée chez moi, tout en restant polie et aimable. Je lui ai précisé mon handicap. Il n'en a pas profité. Au contraire, pendant des mois, il nous a rendu service comme apporter du bois et des pommes de terre, et pendant la journée, il se cultivait en apprenant à lire et écrire. Il m'a même précisé qu'il ne pouvait pas manger de viande, car cela lui faisait énormément de peine en pensant aux pauvres bêtes. Quand mes enfants sont arrivés, ils étaient terrifiés et ont commencé à le battre, mais il ne s'est pas défendu, il se laissait faire.
Avez-vous des choses à rajouter ?
Oui. Après avoir passé des mois avec la créature et après avoir appris à vivre avec, j'ai appris à voir le côté que vous ne voulez pas chercher et je sais que c'est une bonne personne. La créature s'est beaucoup confiée à moi. J'étais son confident, une bonne oreille, car j'étais le seul qui voulait bien l'écouter et parler avec lui. Tout le monde la rejetait à cause de sa laideur, mais celle-ci n'a rien demandé. Elle voulait juste parler et se faire écouter. Pendant tous ces mois, la créature observait une famille et voulait seulement en faire partie. À aucun moment, elle n'a voulu ou essayé de les effrayer.
Merci de votre témoignage qui nous a été précieux. Il nous donne un autre éclairage sur la créature, sur sa bonté intérieure, à l'opposé de son apparence physique. Nous appelons maintenant votre fils, Félix Delassier.
Bonjour, je suis Félix, le fils de Monsieur Delassier.
Bonjour monsieur, que pouvez-vous témoigner, pour qui et comment ?
En rentrant chez moi, après une journée de travail, j'arrive dans ma piètre demeure et je vois cette bête immonde et laide. Je pensais qu'elle était là pour nous voler le peu d'argent que nous avons. Alors oui, j'ai frappé cette bête, mais mettez-vous à ma place, j'étais terrifié. Comme vous avez pu le constater, mon pauvre père est aveugle. En voyant le monstre à ses côtés, j'ai cru qu'il en voulait à sa vie. Mon père est si vulnérable. J'apprends ensuite que cette chose fut près de nous pendant des mois. Il vivait dans notre cave sans aucune autorisation. Dieu, il n'avait pas le droit, il nous observait tel un lion observant ses proies. Il a dû nous voler, nous piller, nous chaparder des dizaines de légumes.
Bien, votre témoignage vous précieux. Je vous remercie. D'après votre témoignage, il semble évident que la créature a été la victime de réactions précipitées telles que la vôtre. Vous pouvez regagner votre place. Passons désormais au témoignage de Jack Blood, le gardien du cimetière. Installez-vous, monsieur Blood, nous vous écoutons.
Bonjour à tous, je me nomme Jack Blood, j'ai 67 ans et je suis le gardien du cimetière d'Ingolstadt. Je me trouve ici présent dans cette salle en votre compagnie pour témoigner du cas de Victor Frankenstein.
Très bien, monsieur Blood. Auriez-vous l'aimabilité de vouloir débuter votre témoignage ?
Mais bien sûr, monsieur le juge, bien sûr. C'était une sombre nuit, un vendredi, il me semble. L'orage tonnait et le vent soufflait. Je restais éveillé et je me trouvais dans mon petit logement, juste à côté du cimetière. Soudain, à travers ma fenêtre, j'aperçus une silhouette sombre qui s'approchait du portail. J'ouvris ma porte et lui dis : Eh bien, mon cher monsieur, je vous demande de vous arrêter. Mais l'homme escalada la grille et son capuchon glissa de sa tête. Ce n'était autre que le jeune Frankenstein.
Vous mentez et... C'est une honte. Aucun de mes actes ne s'apparente à tel mensonge.
Monsieur Frankenstein, je vous prie de ne pas couper la parole au témoin, mais plutôt d'écouter ce qu'il a à nous dire.
Merci, monsieur le juge. Donc, revenons là où nous en étions. Je décidai de suivre le jeune Victor. Je pris le temps de me vêtir et ouvris la grille du cimetière. Mais là, je vis un sombre spectacle qui hanta mes nuits durant plusieurs semaines. En effet, le jeune Frankenstein était en train de déterrer un grand nombre de cadavres. Il en découpait les membres et les plaçait dans un grand sac de toile. Je l'observais ainsi caché derrière une tombe, ayant trop peur d'intervenir, car il aurait très bien pu s'en prendre à moi. Comprenez-moi, il était armé d'une scie.
Eh bien, mon cher monsieur Blood, votre témoignage est fort intéressant. Avez-vous quelque chose à rajouter ?
Oui, monsieur le juge. Je voudrais rajouter que Victor Frankenstein est un fou. Un vrai fou.
Monsieur Blood, veuillez garder le respect, s'il vous plaît. Vous êtes dans une salle d'audience. Je vous prie de bien vouloir retirer, maintenant. Vous, retirer.
C'est injuste. Ce n'est même pas la vraie version des faits. Honte à toi, Jack Blood. Honte à toi.
Ce sera au jury de démêler le vrai du faux et de se forger un avis. Nous appelons maintenant l'avocate d'Elisabeth pour faire parler son journal intime.
Bonjour, je suis l'avocate Anderson et je représente Elisabeth qui malheureusement ne peut être présente en ce jour car elle a été assassinée. Grâce à son journal intime que j'ai recueilli, nous allons tous pouvoir entendre son point de vue que je vais lire de suite. Écoutez bien les écrits de cette malheureuse Elisabeth.
4 mai. Cher journal, cela fait bientôt 2 ans que mon cher et tendre Frankenstein est parti. Je m'inquiète grandement car, pendant de nombreuses semaines, je n'ai reçu aucun signe de vie de sa part. Je m'inquiète beaucoup pour lui. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Bonne nuit. 5 mai. Cher journal. Oh, mon pauvre Frankenstein, que de mauvaises nouvelles. J'ai entendu dire que mon bien-aimé ne mange plus, ne boit plus et ne se préoccupe plus de son hygiène. Depuis la mort de sa mère, Victor est devenu différent. Il agissait depuis ce jour autrement. J'espère que lorsqu'il reviendra, il redeviendra le Victor de mon enfance. Bonne nuit. 6 mai. Cher journal. Pauvre Victor, lui qui se croyait débarrassé de la mort. Voilà que celle-ci revient, mais cette fois-ci elle a pris notre petit William. Je me sens si responsable. J'ai envoyé une lettre à mon Victor lui disant que je m'inquiétais pour lui et lui demandais de venir très vite sans lui donner plus de détails. Pauvre Victor, que ton âme soit en paix, mon petit William. 8 juillet, cher journal, cela fait si longtemps que je ne t'ai pas écrit, mais crois-moi, j'ai eu beaucoup trop de chagrin que je n'ai pas eu le temps ni le moral à t'écrire. Victor est venu et m'a aidé à consoler mon chagrin. Lucine a été exécutée, mais Victor m'a affirmé que ce n'était pas elle qui avait tué, mais quelqu'un d'autre. Il ne voulut pas m'en dire plus. Aujourd'hui est le jour de mes noces. Je suis cachée dans ma chambre. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Victor m'a demandé de m'y rendre, mais comment dire à Victor que je suis ?
Ainsi se finit son journal intime, car c'est à ce moment-ci qu'elle fut assassinée. On peut constater qu'il y a des marques de sang sur son journal intime. On ne saura jamais ce qu'elle voulut dire à Victor à la fin de sa phrase. Merci de votre écoute et de votre attention.
Merci, Maître Anderson, de votre témoignage. Nous avons été d'une aide précieuse. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, vous pouvez regagner votre place. À présent, j'appelle à la barre Emily Field, la femme qui hébergeait Victor. Bonjour, madame. Présentez-vous.
Bonjour. Je me présente à la barre aujourd'hui pour témoigner contre Victor, car j'ai récemment été mise au courant de son arrestation.
Quel est votre lien avec l'accusé ?
Moi, je suis Madame Fields, et j'ai logé Victor à son arrivée à Ingolstadt pour ses études. Dès le premier jour, je savais qu'il était scientifique et qu'il avait besoin de place. Je lui réservais donc le second étage. C'était un jeune homme très entreprenant. Il était fou de cette science qui le faisait vivre. Et pendant une nuit de novembre où il pleuvait, l'orage se déchaîna. J'entendis derrière le son des gouttes qui ruissellent, l'énorme bruit du tonnerre. En me levant, je vis l'éclair s'abattre sur l'antenne posée par Victor dans la journée. Mais avant ce soir-là, moi étant au troisième étage, j'entendais ses pas. Il tournait en rond. Des scies, des perceuses s'accolèrent. Et en plus, il ne touchait plus à ses repas, ne réclamait plus ses lettres, ne se lavait plus. Après cette terrifiante nuit, Frankenstein se sentait mal et avait des hallucinations. Son ami Clerval resta longtemps à ses côtés, mais je ne savais pas la raison de ce malheur. Moi, je me mis à nettoyer son labo. Il était très sale. Mais ce qui me frappa le plus, c'est le sang, la peau, des os et des organes. Après avoir vu ce laboratoire, je savais qu'il avait donné vie à un être constitué inerte.
Merci, madame, de votre précieux témoignage qui, j'espère, nous apportera beaucoup pour le jugement de Victor. Je vous prie de retourner à votre place pour la fin du procès. Un villageois résident près d'Ingolstadt a été convoqué pour témoigner. Qu'il se présente ici. Nous l'écouterons.
Bonjour. Je suis un villageois qui a vu ce monstre nez à nez. Le voyant, j'avais qu'une envie, et c'est de prendre la fuite. Il était tellement laid, horrible, avec ses yeux blancs transparents, avec sa peau jaune. Des fibres musculaires ressortaient, et on voyait carrément ses artères. C'était inhumain. Le regarder un instant est impossible. À ce moment-là, mon seul réflexe a été de le frapper, mais lui n'a rien fait, prendre la fuite à la vitesse de l'éclair. Je n'ai même pas eu le temps de le poursuivre, qu'il avait déjà disparu. Vous, monsieur le juge, si vous étiez à notre place, nous les villageois, vous auriez fait la même chose, qui sait, même pire. Si des meurtres se multiplient dans la ville, ne cherchez pas plus loin. Tant que cette créature est en liberté, personne n'est en sécurité.
Très bien, mais vos diverses déductions ne changeront pas la délibération finale. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir répondu présent à ce procès. J'appelle maintenant à la barre l'avocat d'Henri Clerval.
Bonjour, monsieur le juge. Je me présente, l'avocat d'Henri Clerval. Je souhaite témoigner en sa faveur. À ce jour, il nous a malheureusement quittés à cause d'un meurtre engendré par la créature. Merci de m'avoir accueilli à la barre et de m'avoir attentivement écouté. Je vais vous faire part du témoignage de Henri Clerval que j'ai retrouvé dans ses affaires grâce à ce testament légué par celui-ci. L'enquête va pouvoir commencer. À cet instant même, je vais défendre mon client décédé en vous lisant ce qu'il nous a laissé.
24 mai. En me rendant au domicile de Victor à Ingolstadt, je l'ai trouvé bizarre et stressé. Victor entra dans une pièce avec de nombreux objets spéciaux. J'étais mort d'inquiétude pour mon tendre ami. J'avais un mauvais pressentiment qu'il fasse une bêtise. J'essaie de découvrir ce qu'il cache derrière tout ça avec ardeur. J'ai découvert que Victor était devenu malade. J'étais tellement inquiet pour lui que je me suis mis à l'aider, à essayer de le comprendre, mais à des moments j'ai cru qu'il hallucinait. Il m'a dit quelques paroles sur Justine, qu'elle était en danger. Et je pensais qu'il délirait en me disant qu'il avait aperçu un monstre qui allait tuer William. Et il pleurait en me disant que ce n'était pas de sa faute, ni celle de Justine, mais celle du monstre. Pour moi, soit il était fiévreux, soit il hallucinait, ou soit il rêvait de ça. Et je tenais à écrire ce que j'avais sur le cœur, mais pour une de mes premières fois, je me demande bien pourquoi.
Voilà, monsieur le juge, ce qu'a écrit Henri Clerval, et pour moi, ce n'est pas un hasard ce qu'il a écrit. Pour moi, un monstre nommé la créature existerait vraiment, et c'est donc pour ça que je suis son avocat, et aussi pour ça que je le défends, car je le crois. Avez-vous des questions à me poser ?
Oui. Est-ce qu'Henri Clerval avait connaissance de la créature ?
Non, il n'en avait aucune connaissance. Il ne savait même pas qu'elle existait. Mais il savait que Victor faisait une invention, mais laquelle, je ne pourrais vous dire.
Très bien. Je vous remercie de ces commentaires très pertinents. Passons désormais à l'un des témoignages phares de cette affaire, celui de la créature.
Bonjour, monsieur le juge. Je suis la créature créée de toutes pièces par Victor Frankenstein. Je suis aujourd'hui présent pour défendre ma cause et apporter mon témoignage sur cette supercherie.
Très bien. Racontez votre témoignage et, avec le plus de précision possible, je vous prie.
Je vais vous raconter mon histoire. Je suis né, ou plutôt créé à Ingolstadt, par le savant fou Victor Frankenstein. Celui-ci m'a créé avec des morceaux de cadavres récupérés dans le cimetière du village. Il m'a créé dans son laboratoire et m'a donné la vie à l'aide d'un éclair. Une fois mes paupières ouvertes, j'aperçus Victor et dans son regard je vis le dégoût et le mépris. Je le vis, me laissant seul dans l'obscurité. Je me déplaçai alors vers une autre pièce qui se trouvait être sa chambre. Je le vis dans son lit en train de faire des cauchemars. Quand il se réveilla, il me regarda et fuit dans la cour intérieure. Je décidai alors de partir de cet endroit. Je partis, emportant avec moi son manteau. Une fois dans la rue, les villageois me dévisagèrent et prirent peur. Je décidai alors de fuir dans la forêt. Je pense que Victor Frankenstein n'est pas le seul coupable. Les villageois le sont tout aussi, car ils m'ont rejeté, chassé, et ils m'ont même tiré dessus car je suis physiquement repoussant.
Donc vous les pensez en partie coupables ?
Tout à fait.
Continuez.
J'ai donc fui dans les bois et j'ai trouvé une ferme. J'ai observé, pendant plusieurs mois leur hôte et je remarquais que le père était aveugle. Je sympathisais alors avec le vieil aveugle. Celui-ci m'acceptait car il ne pouvait pas me voir. Il ne pouvait me juger que sur ma beauté intérieure. Je lui expliquais donc que tous les humains me rejettent à cause de mon physique. Après une année passée dans cette ferme à travailler, Félix et Agathe, les fils du vieil aveugle, me surprirent dans une conversation avec leur père. Ils me prirent alors pour un monstre qui voulait du mal à leur père. Ils me chassèrent à coups de balai. Je n'eus pas l'idée de me défendre et j'ai donc pris la fuite. Encore de la peur. Je décidai alors de retrouver mon créateur. Je savais qui il était, où il était et comment il m'avait fait, car dans la poche de son manteau, il y avait son carnet où tous les renseignements y étaient. J'ai donc pu prendre un chemin jusqu'à Victor. En chemin, j'ai croisé un petit garçon. Je décidai de l'emmener avec moi car les enfants sont très influençables. Mais ce petit garçon, prénommé William, me dit que c'était un Frankenstein. Il me dit qu'il irait le dire à sa famille. Quand j'appris que c'était un Frankenstein, je fus pris d'élan d'un rage et je tua le pauvre enfant. Plus tard, je me trouva dans le labo de Victor Frankenstein. Quand celui-ci me vit, il prit peur, mais essaya de garder son calme. Je lui demandai calmement s'il pouvait me créer une femme avec son petit carnet, que je lui montrais. Mais dans un élan de fureur, il détruit son labo et me chassa de la pièce. En partant, je lui promis de me venger sur sa famille. J'ai donc tué Clerval et Elisabeth, et j'ai aussi tué indirectement le père de Victor. Ce n'est que plus tard que je me rendais compte des erreurs. Je décidai alors de fuir vers le pôle Nord. Mais Victor, avec sa rage, me poursuivit jusqu'au bout du monde. Mais son corps ne tenut pas et il s'arrêta souffrant sur le bateau de Walton. Je décidai donc de monter aussi à bord. Walton me surprit et je décidai de lui conter mon histoire.
Donc, vous avouez les avoir tués ?
Oui, mais pour moi je ne suis pas le seul coupable.
Sans aucun doute, le témoignage le plus important de cette affaire. Vos faits sont entendus, vous pouvez disposer. Nous accueillons le protagoniste de cette histoire, Victor Frankenstein. Veuillez prendre place.
Bonjour, je suis Victor Frankenstein, le créateur de la créature. Je viens ici pour prouver mon innocence. Je suis un passionné de science et voulais la faire progresser. Je n'ai en aucun cas voulu tuer ou blesser quiconque, et je clame devant cette cour mon innocence.
Dites-nous, en plus, que nous puissions nous forger un avis.
Je suis parti à Ingolstadt pour pouvoir démarrer mon projet. Si j'ai eu cette idée, c'est que je voulais anéantir la mort et ainsi venger ma mère. Là-bas, j'ai beaucoup travaillé. Et je le répète, je n'avais pas l'intention de créer une machine à tuer. Après avoir longuement travaillé, la créature fut sur pied. Et ce fut à ce moment-là que je me rends compte de mon erreur. Vous devez le savoir, mais j'ai perdu le contrôle. La créature s'est enfuie et c'est là qu'elle commit des crimes. Plusieurs mois plus tard, mon frère William trouva la mort. Et je vis l'abomination. Cette chose voulait que je lui fasse une campagne. Mais je savais que c'était pour perpétuer ses crimes. Malheureusement, il se vengea en tuant ma famille. Et je vous pose une dernière question. Pourquoi aurais-je créé une créature en sachant qu'elle tuerait ma famille ? N'est-ce pas moi la victime finalement ?
Je vous remercie. Les personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui ont témoigné avec honnêteté, je les remercie. D'après les témoignages, je conclus que M. Victor Frankenstein est autant coupable que la créature, car il en est l'inventeur. La même créature qui est la cause de nombreux meurtres commis ces derniers jours et qui sont, ce jour, non résolus. Monsieur Walton nous a exposé l'histoire d'après son point de vue d'observateur et nous avons maintenant tous les éléments nécessaires pour délibérer. Après avoir écouté les différents témoignages qui viennent de nous être offerts, je me tourne à présent vers les jurés de cette affaire et leur demande de se prononcer sur leur décision. Pardonnez-moi. Doit-on condamner M. Frankenstein ou le relâcher ? La décision vous sera communiquée dans quelques minutes. Le jury du tribunal a délibéré. Je vais vous faire part de sa décision. Aujourd'hui, le 8 octobre 1721, le tribunal condamne M. Victor Frankenstein à la prison à perpétuité dans le pénitencier de Jean Lockman de Procyon, dans une chambre noire et isolée. Merci de votre patience. Au revoir.